Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va passer certainement une belle soirée en compagnie d'un gars que j'écoute depuis un certain temps, que j'aime bien entendre. C'est un jeune qui s'intéresse à la politique. Je dis un jeune, mais il arrive quasiment dans la trentaine bientôt. Mais il a de l'air jeune, tiens, du moins, c'est comme ça qu'on va le présenter. Son nom, c'est Joey Aubé, de Génération Ambition. Salut, Joey!
Salut Yann, ouais, c'est ça. Il me reste une année encore. Laisse-moi ma jeunesse, le peu qui me reste là.
Attends, c'est ça, mais t'as de l'air jeune. On a tendance à dire, Colin, il est donc bien jeune pour s'intéresser à la politique, mais que finalement, t'as presque 30 ans, tu sais.
Ben oui, mais je suis assez content. C'est un peu je dis tout le temps ça. Avant d'avoir 18 ans, on va t'avoir l'air plus vieux, mais après, on va t'avoir l'air plus jeune. Fait que c'est ça. Je suis assez content là-dessus. C'est pas si pire. Je rasais toute la petite barbichette que j'ai. J'aurais l'air d'un gars de 25-26. Je suis encore bon pour quelques années encore.
Comment vous avez pensé à partir Génération Ambition? Qu'est-ce que c'est exactement ça?
En fait, Génération Ambition, c'est un mouvement, c'est pas une aile jeunesse, c'est vraiment un mouvement de jeunes plus conservateurs, mais transpartisans. À l'origine, parce que regarde, pour faire un petit récapitulatif, moi je milite au PCQ depuis plus de 3 ans. En fait, c'est là que je m'étais fait un petit peu connaître à l'époque. Je suis passé de nobody à somebody en à peine une demi-journée. C'était à l'époque où j'ai... Parce que j'étais à la CAQ pendant 2 ans et demi. Je le sais, on fait tous des erreurs dans la vie. Mais c'est ça. Je me ramasse là, puis j'ai fait un bon 2 ans. Puis en février 2021, en plein milieu de la pandémie, ça allait moins bien. Puis en tout cas, pour faire une histoire courte, j'ai eu quelques problèmes avec l'aile jeunesse puis certaines décisions que le gouvernement prenait durant cette période-là. Fait que j'ai décidé tout simplement de claquer la porte, mais juste pour tourner sur le banc des spectateurs. J'avais aucune intention de vouloir rembarquer dans un autre parti politique. J'étais comme un peu à bout, je voulais prendre un break. Et il y a un journaliste de mon coin, parce que moi, je suis de Montmagny, dans Chaudière-Appalaches, José Soucy, que je salue d'ailleurs, qui était à CEMA TV à l'époque, les médias locaux, puis me dit, j'y raconte ça. Il dit, veux-tu que je fasse un article là-dessus? Bon, s'il y en a 2-3 qui le lisent, puis qui comprennent un peu que ça va pas bien, quand bien je me fasse. Mais ce que je savais pas, c'est qu'il connaissait Éric Duhem. Puis il envoie l'article à Éric. Éric leur partage sur sa page super suivie là, les demandes d'entrevue, puis avec Dominique Morel le lendemain, puis de ci, puis de ça. Moi, je capote ben raide, puis Éric lui-même m'appelle sur mon cellulaire par la suite. Et là, c'est là que je me suis mis en réflexion, puis let's go, je me suis embarqué avec lui depuis 3 ans. Puis, depuis les dernières années, donc avec cette élection qui a terminé, puis le congrès qu'on avait eu en automne dernier, il y avait le bout qu'on avait de plus en plus de jeunes qui s'impliquaient, puis je me dis, faudrait à l'origine, je voulais vraiment fonder l'aile jeunesse du parti, parce que c'est ça qui nous manquait, on n'avait pas ça, toutes les autres parties en avaient, on n'en avait pas. Là, j'ai commencé à fouiller un peu, puis à jaser à notre monde, dit, ouais, c'est pas qu'un mouvement de jeunes nous intéresse pas, mais il y a le côté un peu infantilisant des ailes jeunesse qu'on traite pas tant que ça. T'sais, on veut se faire traiter comme des adultes, pas une gang de bénévoles gratis ou de candidats poteaux qu'on fait semblant de les écouter. Puis disons qu'ayant été à CAQ, je peux te dire que j'en ai connu un peu de ce genre de ce style-là. Fait que je me dis, OK, qu'est-ce que ça serait la meilleure manière de faire ça, puis de promouvoir les idées. Puis aussi, on a les objectifs de Génération Ambition, c'est vraiment de donner une voix à ces jeunes-là qui sont plus jeunes hommes et jeunes femmes qui sont plus conservateurs au Québec, parce que je vois dans les médias, que ce soit à Radio-Canada, à TVA ou à whatever, dans les radios, ben, à part certaines à Québec, bien évidemment, les jeunes, quand on parle d'eux autres, c'est « Ah, les jeunes sont éco-anxieux, les jeunes, c'est l'environnement, les jeunes sont tout à gauche, les jeunes sont ci, les jeunes sont ça. » Je me suis dit « Non !» ça se peut pas, il n'y a pas un monopole pour dire que tous les jeunes veulent le progressisme à côté, puis le socialisme à côté aussi. Fait que j'ai voulu créer ce mouvement-là pour leur donner une voix légitime. Puis la raison pourquoi j'ai appelé ça un mouvement transpartisan, c'est qu'autant que là, on a commencé avec le PCQ, puis un peu comme un bon père de famille, il nous aide à faire notre petit élan quand on commence à faire du vélo, pas de roue, là. Ben, pas de roue de support, si je peux dire. Mais l'objectif, au final, c'est vraiment d'aller rechercher, parce que j'en ai connu même à la CAQ, des jeunes qui sont plus à droite, assez surprenamment qu'on puisse dire, pour pouvoir justement donner une voix de manière transpartisane à tous les jeunes, à toutes les autres parties aussi, pour qu'en bout de ligne, les idées plus conservatrices au sein des mouvements plus jeunes puissent se faire sentir puis se faire entendre dans les médias.
OK. Sur l'échelle gauche-droite, là, t'es situé à quel endroit? Centre-droit, centre-gauche?
Je me considère, ben, pour être bien franc, ça dépend par sujet. Je te dirais que économiquement, je suis plus à droite. Je te dirais au niveau social, ben, garde, pour te donner une idée, je me positionne un peu comme Eric là-dessus. T'sais, moi, je suis ouvertement gay, mais étrangement, autant que j'embarque, puis tu sais, avortement, mariage gay, all the way, mais tout ce qui est, tu sais, certaines réflexions qu'on entend dernièrement, tu sais, par rapport aux drag queens, puis des trucs comme ça, je te dirais que même moi, qui fais, entre guillemets, partie de ce mouvement-là, j'ai certaines questions, puis certaines, je dirais, inquiétudes par rapport à ça. Tu sais, la définition classique, il y en a qui verraient ça, je me considère comme un libéral classique dans le principe que, tu sais, je reconnais que l'État a un rôle à jouer, mais je pense que dans une économie ou dans une société, ça prend vraiment un bon système, je te dirais, de compétition dans la majorité des trucs. Là, tu sais, une économie libérale majoritairement, tu sais, un monopole, que ce soit au privé ou au public, c'est jamais bon. Je pense que c'est vraiment qu'en se challengeant d'un bord comme de l'autre, c'est sûr, mettons, en libéralisant un marché qui est un parti privé, parti public, qu'il va avoir aussi une certaine innovation qui va se faire, parce qu'on le voit avec le milieu de la santé. Là, tu sais, la raison pourquoi il n'y a jamais rien qui change. Oui, il y a les syndicats, oui, il y a les fonctionnaires puis la paperasse, mais c'est majoritairement parce qu'il n'y a personne dans le marché qui peut y challenger, à part le privé. Mais souvent, le privé, c'est plus pour leur sauver le derrière, comme M. Dr. Lacroix fait à Québec, par exemple.
Ouais. Donc, sur l'échiquier gauche-droite, au niveau économie, exemple, tu es vraiment du côté centre-droit.
Mais ouais, pas mal ça, ouais.
Pour d'autres sujets, tu peux être un peu à gauche, un peu à droite. Donc, c'est pas mal tempéré. Est-ce que tu trouvais ton compte à la Coalition Avenir Québec quand tu étais là?
Ben, le message, tu réécoutes, puis vous pouvez le trouver sur YouTube, il y a encore des vieilles entrevues de François Legault en 2011, 2012, 2013. Vous écoutez son discours, puis c'est quasiment du copier-coller ce qu'Éric Duhaime ou le PCQ propose aujourd'hui.
Ouais. À ce moment-là, il parlait d'une coalition de gens qui étaient un petit peu à gauche, de gens qui étaient un petit peu à droite, ouais. Et que tout ce beau monde-là allait s'entendre à un moment donné sur quelque chose, puis ça allait donner ça. Mais on se rend compte que c'est pas ça pantoute.
Non, c'est ça. Puis surtout qu'ils ont carrément changé d'électorat à travers la pandémie. Tu sais, la CAQ s'est fait élire en 2018 avec les jeunes familles. Mais le problème, c'est qu'avec la dernière élection, ils ont changé d'électorat, puis c'est les boomers qui les ont réélus. Fait que pas de même priorité, pas de même sujet du tout. Puis il faut le dire à la CAQ, ils sont très bons en termes... Tu sais, la CAQ, c'est une agence de com' sur pattes. Là. Tu sais, ils sont vraiment... Le fameuse boussole que Legault n'est pas capable de trouver, c'est qu'il sera... C'est ça, il met le doigt au vent, puis voir aussi que ça souffle, puis il tourne là. Puis autant qu'ils peuvent dire, ah, ben c'est super bon, on écoute la population, ouais, mais si t'as pas de plan au travers de tout ça, ça va. C'est un peu comme si tu vas dans un restaurant et on fait tout ce que le monde va avoir. Fait que tu vas avoir une assiette de pizza all the rest avec une sauce au chocolat, avec un hors d'œuvre d'endive et la sauce aux, je sais pas, mettons, aux anchois. Fait que tu te dis, ah, ben c'est ce que le monde veut, ouais, mais en accompagnement, c'est pas très le bon sur le coup, finalement.
Ouais. Est-ce que vous vous sentiez écouté à la Coalition Avenir Québec?
Je te dirais que, autant que moi je suis arrivé là vraiment après leur élection en 2018, c'était vraiment sur le coup, c'était pas par opportuniste aucunement. Puis autant que certains députés avaient une certaine écoute, mais c'est vraiment une machine électorale, cette partie-là. La seconde, c'est en rentrée au pouvoir, c'est que... Puis même, c'est un peu ça que je me suis fait critiquer, parce que moi, tu peux le voir, j'ai une grande gueule, puis que mes opinions, même si c'est pas nécessairement populaire, des fois, j'ai pas peur de le dire du tout. J'ai rien de controversé, mais quand même. Mais dans une aile jeunesse, surtout à la CAQ, c'était comme, ouais, ils m'ont dit quasiment poliment, ben Joey, fais attention à ce que tu dis, tu sais. En gros, la logique, c'est un peu, si tu veux monter dans les bonnes grâces, ben c'est ça, suis le rang, puis ferme ta gueule un petit peu, tu sais.
Fait que, c'est ce que tu ressentais.
Ouais, puis autant que la CAQ, ils ont une association jeunesse, ils ont un congrès des jeunes à chaque année. T'sais, moi, j'avais participé à celui de 2019, c'était à l'Université Bishop à Sherbrooke. Ouais, tu sais, est-ce qu'en bout de ligne... Je ne l'ai pas vu personnellement dans les dernières années qu'il y avait des propositions que les jeunes caquistes ont proposées qui, nécessairement, que le gouvernement a appuyées. Du moins, je n'ai pas suivi ça tant que ça, mais disons que c'était plus un genre de version jeunesse d'un groupe de pom-pom girls pour appuyer le gouvernement que nécessairement un genre d'organisme à côté pour comme shaker la cage à nos chers vieux élus. Là, ouais. C'est ce que j'aurais aimé qu'il aille, mais c'est pas nécessairement ce qui est arrivé.
Donc, il n'y a aucune idée qui a émergé de l'aile jeunesse puis qui, en bout de ligne, rendu en haut, ça a émergé sur quelque chose.
Ben, il y en a eu quelques-unes, mais souvent, c'est comme semi-papoté pour que ça fitte, puis que, tu sais, souvent, on prend l'idée originale, puis on la twist de 36 millions de manières, puis en bout de ligne, on se demande qu'est-ce qui en reste à la fin, tu sais. Mais, tu sais, surtout que, autant que pour être bien franc avec toi, c'est sûr que j'ai moins suivi la jeunesse caquise depuis que je suis parti, personnellement, disons que je fais mes affaires de mon bord, ils font les trucs de leur côté. Mais j'ai rien entendu, pourtant je travaille dans le podcasting, puis je suis l'actualité à longueur de journée, j'ai rien entendu de si extraordinaire comme ça sortir de la jeunesse caquiste personnellement.
Ouais.
Qui vaut à peine d'en parler.
Là. Avec Génération Ambition, as-tu l'impression que ça a changé les choses avec le Parti conservateur jusqu'à maintenant?
Ben c'est sûr que là, on est encore en construction. Là. Je te dirais présentement, ça paraît un petit peu microcosme, mais on a à peu près une bonne trentaine de personnes qui sont intéressées par le mouvement. On a choisi notre logo officiel dernièrement. On a créé nos premiers réseaux sociaux on a un serveur Discord. On est sur Messenger Facebook, TikTok et compagnie. Fait que notre but, nos objectifs, c'est vraiment justement d'être plus présents sur les endroits aussi qu'on peut trouver les jeunes, donc réseaux sociaux majoritairement parlant, et ensuite créer notre fameux site web avec nos valeurs écrites sur papier finalement. Ben, sur papier numérique, bien évidemment. Fait que là, ce qu'on a fait, on a eu une réunion la semaine dernière, on a comme... Il y a un de nos membres, Sacha, que lui, il a vraiment beaucoup travaillé dans tout ce qui est communautaire, puis les CA et tout ça. Puis il disait, au lieu de vouloir tout mettre nos idées sur la table, puis de faire une sorte de bouillabaisse avec ça, écoute, on va prendre 3-4 personnes de la gang, on va vraiment aller consulter chaque personne pour savoir qu'est-ce qui, selon eux, c'est quoi les valeurs que Génération Ambition devrait représenter. Puis après ça, on va présenter ça à tout le monde, puis voici ce que pas mal tout le monde se rejoint sur tel enjeu. Puis s'il y a des trucs qui ressortent, puis il va y avoir un vote démocratique relié à ça, puis ensuite, ça va être comme notre... Je dirais pas une charte, là, parce que je veux pas être de Bernard Drinville, mais vous comprenez un peu ce que je veux dire.
Puis est-ce que tu as l'impression que les politiciens comprennent un peu les nouveaux qui veulent s'intéresser à la politique, puis vers où les jeunes aimeraient que la politique puisse les amener? T'as-tu l'impression qu'ils s'écoutent juste entre eux? Ou, je sais pas, moi, dans le cas de François Legault, on me dit que son cercle est très, très, très restreint, puis peu importe qui essaie de les influencer pour améliorer des choses, vous serez jamais écouté. C'est vraiment son cercle très, très, très restreint qui peut se faire écouter de François Legault.
Je dirais que l'erreur des politiciens, puis je ne le mets pas juste à la CAQ, j'ai la forte impression, puis je le vois, je l'ai vu au PLQ, puis autant que les seuls que je peux dire qui ont peut-être une plus grande connexion avec, quand je dis les jeunes, je dirais une partie des jeunes, comme je dis, il n'y en a pas tous les jeunes qui sont à gauche, mais c'est QS. QS, ils ont un mouvement vraiment jeune très fort, c'est une grosse partie de leur électorat, puis je ne pourrais pas leur enlever qu'ils ont une certaine connexion avec cette génération-là, mais pour les politiciens en général, c'est qu'ils prennent souvent les nouvelles ou ce que les journalistes leur disent, ce que les jeunes veulent, ou même les résultats de sondage, mais ils ne vont jamais vraiment les voir pour de vrai. Parce qu'ils savent que ce n'est pas nécessairement un électorat qui, contrairement aux boomers, qui votent de manière quasiment soviétique, ils savent que c'est beaucoup tough aller les voir. Souvent, étant d'un âge plus vénérable qu'eux autres, ils n'ont pas toujours les meilleures idées pour aller les rejoindre, là, tu sais. Disons qu'on a vu durant la dernière campagne électorale ce que notre cher PM, quand il faisait du TikTok avec son fromage en grain quick, disons qu'on repassera. Même chose avec son histoire de banane, puis de pomme, puis d'orange d'hier. Fait que il s'essaye, mais c'est rare qu'il rejoigne, je te dirais. Fait que ça prend du monde autant connecté sur la nouvelle génération, mais aussi up-to-date avec les nouvelles technologies, puis ce qu'on appelle les fameux trends d'aujourd'hui aussi pour rejoindre les plus jeunes, malheureusement. Heureusement, mais aussi malheureusement.
T'as 29 ans, Joey, j'imagine que t'as des amis qui sont autour de 25, 20, fois vous devez échanger. Sont-tu tous communistes à part toi?
Non, mais pour être bien franc, des vrais communistes, j'en ai pas rencontré tant que ça.
Ouais. Parce que des fois, ça fait peur. Là. Cégep de Limoilou, pour ceux qui sont passés au Cégep de Limoilou, là, c'était QS avant que ça existe. Là. Des gens qui avaient l'impression que les gens qui avaient réussi en affaires, c'était tous des voleurs qui devaient absolument avoir droit à tout sans que ça leur coûte absolument rien.
Un peu québécois, ça, de penser comme ça. C'est pas juste autant que QS, ouais. C'est quasiment ça sur la poudre, mais tu sais.
Mais tu sais, je me souviens pas qui avait déjà dit ça, mais il y a quelqu'un qui disait être communiste à 20 ans, c'est normal. À 40 ans, c'est un peu particulier.
Ça, c'est Churchill. Il disait, ouais. Si t'es communiste à 20 ans, t'as pas de cœur. si t'es pas communiste à 20 ans, t'as pas de cœur. Mais si tu l'as encore à 40 ans, t'as pas de tête. C'est ça qu'il disait. Non, mais sérieusement, ce côté vraiment, tu sais, vouloir diaboliser l'argent, je pense que c'est beaucoup plus notre héritage agro-catholique qui est encore un peu restreint. Ça va disparaître au fil des années, mais c'est toujours le côté que quelqu'un qui fait de l'argent dans la vie, c'est impossible qu'il le fait de manière honnête. Il a dû, entre guillemets, excusez-moi l'expression, fourrer quelqu'un pour avoir cet argent-là, le côté de vouloir cacher notre BM dans notre garage parce qu'on n'ose pas la laisser sur le terrain de peur que les voisins deviennent jaloux. Mais personnellement, je pense que c'est une illusion, ça, parce que beaucoup de ceux qui sont à Génération Ambition qui nous ont rejoints, ils ont voté QS en 2018. Puis c'est pas parce qu'ils étaient vraiment de gauche, c'est qu'eux autres, tu sais, c'était pas nécessairement tous des geeks politiques, puis tu sais, ils s'intéressaient à l'actualité un peu comme monsieur, madame, tout le monde. Puis ils sont arrivés, on leur a dit qu'ils étaient de gauche, puis on leur a dit que la gauche était QS, fait qu'automatiquement, ils se sont dit « je suis avec QS ». Fait qu'autant qu'ils ont une certaine sensibilité pour le côté un peu plus altruisme et aider les gens plus défortunés que nous autres, c'est normal, ça fait partie de la jeunesse, mais il y en a beaucoup, je pense, qui se disent de gauche, se disent pro-QS, mais je pense qu'ils n'ont pas nécessairement fait la réflexion. Ou on ne leur a pas nécessairement donné une alternative que non, finalement, regarde ça, es-tu pour, mettons, une saine compétition? Oui, est-ce que tu es pour qu'une méritocratie pure à l'université, que ce soit vraiment par rapport à la compétence des gens et non pas leur orientation sexuelle ou leur couleur de peau qui sont choisis? Oui. Es-tu d'accord que tout ce qui est l'affaire du wokisme puis la cancellation, ça n'a pas de bon sens, puis la liberté d'expression, c'est fondamental? Oui. Ben, imagine-toi donc, QS, t'es peut-être pas à bonne place, mon homme. Je te dis ça comme ça. Fait que je pense qu'autant que oui, des purs, durs, jeunes qui sont de gauche, il y en existe, bien évidemment. C'est comme dans toute démocratie, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui partagent nos idées puis qui sont pas mal plus centristes slash de droite qu'on peut penser dans la société, du moins auprès des jeunes.
Est-ce que selon toi, Joey, est-ce qu'on devrait instaurer des cours pour en savoir peut-être un peu plus sur la politique? Puis pas juste la politique québécoise, mais la politique canadienne, la politique américaine. Comment ça se passe aussi en Europe? Tu sais, c'est pas normal de voir qu'aujourd'hui, quelqu'un va finir son cégep puis il aura jamais entendu parler de Margaret Thatcher. Encore, tu sais, on parlait de Churchill tantôt. T'sais, si ces gens-là n'ont jamais entendu parler de ça, je veux dire, t'as peu. Est-ce qu'on aide les cerveaux à croître au secondaire? Ou?
T'as pas confiance dans le nouveau cours de citoyenneté caquiste que notre cher gouvernement va nous préparer? Ou je sais pas s'il a commencé, j'ai pas trop informé là-dessus.
Ouais.
Mais
c'est pas que j'ai pas confiance, mais depuis que je suis jeune, on me parle du fameux modèle québécois, là. Puis moi, un modèle, ouais. Joey, je sais pas toi, mais moi, quand j'ai eu un modèle, je tentais de reproduire ce que mon modèle faisait. Si je voulais être Wayne Gretzky, ben je regardais des trucs que Wayne Gretzky faisait sur la glace, puis je tentais de reproduire ce qu'il faisait sur la glace où j'étais. Le modèle québécois n'a jamais été repris nulle part. Là.
Ben c'est ça, le principe d'un modèle, c'est que ça a été copié ailleurs. Puis à date, certains diraient que dans le Canada anglais avec l'histoire des CPE, mais encore là, c'est pas un gros copiage de modèle, puis c'est pas un des plus parfaits non plus. Non, c'est ça, puis c'est un peu aussi pourquoi j'ai démarré Génération Ambition, c'est que mon but, c'est pas de faire, c'est ça que je veux casser, c'est qu'on est capable d'avoir des discussions. Quand on fait des débats au Québec, non, c'est pas de la chicane, c'est des débats sains, puis il faut en avoir. Puis aussi que on est capable de montrer le vrai problème du doigt, puis que c'est, selon moi, l'État-providence au Québec. Puis ce que je vois, puis je vais savoir parce que je veux pas que les gens se disent « Ah, t'es un anti-Québécois, t'aimes pas ta nation, t'aimes pas ton peuple. » Non, au contraire, parce que je l'aime en tabarouette, puis que je vois le Christ potentiel qu'on a à travers chaque personne, puis qu'il est étouffé par ce modus d'État-là qui est censé nous protéger, qui est censé être notre grand sauveur en moment de péril.
Puis tu sais, on aime le Québec, c'est la raison pour laquelle on en parle régulièrement, puis qu'on dénonce des choses qui se font, parce que, tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, ben moi, j'aime mon Québec, mais je participe pas au progrès jamais. » Il reste à l'extérieur de ça, puis les politiciens, ben, ils aiment bien que les gens restent à l'extérieur de leurs affaires, parce que pendant que nous, on les ignore, eux peuvent faire passer leurs affaires. On l'aime, le Québec, on l'aime, le Canada, puis on veut que les choses progressent. C'est la raison pourquoi on en parle régulièrement, de cette fameuse politique-là. Mais de voir qu'on va aller dans nos écoles, tu sais, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir exactement dans les programmes qui vont être donné aux élèves, tu sais. Mais je pense qu'au secondaire, on devrait commencer à parler de la politique. Qu'est-ce que la gauche, qu'est-ce que la droite? Puis pas selon ce qu'on a vu là, dans un genre de dossier au cégep, c'était-tu au cégep de Sainte-Foy qui disait la gauche sont gentils, c'était au cégep Garneau, la gauche sont gentils puis la droite sont méchants. Je veux dire, qu'est-ce que c'est ça? Là? Je veux dire, est-ce que vous formez des attardés mentaux, tu sais?
Non, c'est ça, parce qu'il y a encore là, autant qu'au Québec, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on a toujours penché un petit peu plus à gauche avec notre système social-démocrate, là, tu sais, puis justement, là, tu sais, que on comparait souvent la droite aux républicains américains, puis autant que moi je suis de droite économiquement, il y a bien des trucs qui se passent aux États-Unis que je suis pas d'accord, mais pas en tout, puis c'est un peu comme le gros méchant loup qu'on n'ose pas trop s'approcher ni copier. Mais t'as absolument raison. Autant que j'ai eu des cours de politique au cégep, mais je pense qu'il aurait fallu que j'en aie beaucoup plus de bonheur. Puis c'est pas parce que t'es... Autant qu'on n'a pas encore le droit de vote, mais juste savoir comment le système fonctionne, la base. Tu sais, que même aller... Étrangement, mais sûrement, c'est assez spécial, mais tu sais, même savoir faire son rapport d'impôt, ça paraît un peu stupide. T'sais, tu sors du secondaire, tu sais, OK, débrouille-toi. Tu sais, c'est comme, ah, c'est le fun.
Parler d'économie au secondaire, ça peut se faire.
Mais il y a déjà un cours, je pense, d'économie au secondaire. Je ne vais pas me tromper. Mais
Moi, je ne l'avais pas, ce fameux cours-là.
Moi non plus.
Moi, c'était économie familiale. Fait qu'ils m'ont fait coudre des boxeurs, puis ils m'ont fait coudre des
mon père a connu ça
des
aussi.
Des étuis à crayon, là. C'est ce qu'on a fait.
C'est ça. Moi, à l'époque, parce que moi, j'ai arrêté l'école en 2011, début secondaire 5. Moi, j'étais un décrocheur. Hein. J'étais un gros méchant loup. Mais je me suis repris. Je me suis rendu quasiment à l'université. Mais c'est ça, j'avais le cours qui s'appelait Monde contemporain. Je ne sais pas s'il existe encore, mais c'est un genre de mélange de géopolitique. Et de Je dirais pas justice sociale, ça allait pas jusque-là, mais c'était comme le truc d'ordre de vision globale du monde. Un peu.
Ouais.
Puis j'ai connu, bien sûr, le cours d'éthique et culture religieuse, mais j'étais chanceux. J'avais un prof à ma polyvalente à Montmagny qui n'était pas un woke ni un gars ultra multiculturel. Oui, il nous parlait des cultures des autres, mais c'était vraiment plus dans la version correcte de faire le truc, puis des trucs plus extrêmes, etc. Mais non, absolument. Même ce serait. Autant que c'est sûr et certain qu'on ne peut pas commencer à mettre des caméras dans chaque classe puis voir absolument ce que chaque prof fait. À un moment donné, il faut laisser une certaine confiance. Mais j'ai l'impression que pour attirer puis pour enseigner ça surtout, ça va prendre plus que des nouveaux cours, ça va prendre aussi des enseignants pertinents pour les faire. Puis avec le système d'ancienneté qu'on a, relié majoritairement au système syndical qu'on a à la fois au niveau de la santé, qu'on a au niveau de l'éducation, tu sais, je sens qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont de mon âge, même plus vieux, qui ont tous connu à un moment donné quand ils étaient au secondaire ou au primaire que, je sais pas, il y avait un de leurs profs, peu importe la matière, un ou une qui n'était pas capable, tu sais, c'était pas la matière le problème, c'était vraiment la personne qui l'enseignait, puis pour X raisons, il devait partir, je sais pas, mettons, un mois en congé de maladie, puis il se trouve que c'est un jeune ou une jeune prof fringante qui est arrivée pour les remplacer, puis coudonc, la moyenne de la classe a augmenté tout d'un coup. Même matière, là, mais là, c'était fait différemment, c'était plus pédagogique, puis là, ça fonctionnait, puis là, tout d'un coup, le vieux prof en revient. Parce qu'ils n'ont pas pu le garder, parce que l'autre, il est plus ancien, tu sais, hein, il faut comprendre ça, tu sais. Fait que c'est un peu ça,
Les
fait que
fameux
le...
profs qui étaient dans le couloir de la mort puis qui attendaient leur retraite avec impatience, qui
Puis qui
sortaient
n'ont pas
leur
changé
talent.
leur plan de cours depuis quasiment 15 ans.
Exact. Ouais, ça existait. Mais oui, il faut que la politique soit enseignée au secondaire puis d'une façon peut-être efficace, mais pas juste la politique québécoise, canadienne. Moi, j'aimerais que ça soit vraiment, tu sais, comment ça se passe aux États-Unis? C'est quoi un grand électeur? C'est quoi, tu sais, comment ça prend de personnes, exemple, pour voter pour ci, voter pour ça? Ça ressemble à quoi un bulletin de vote aux États-Unis? Parce que quand c'est les élections présidentielles, sur le bulletin de vote, c'est pas juste le président. T'sais. Il y a des fois,
Non.
il y a des référendums où tu peux aussi élire un shérif, le shérif de l'endroit. Il y a plusieurs choses qui sont franchement intéressantes à savoir. Puis les grands personnages qui ont passé en politique canadienne, américaine, québécoise, même, on parlait de l'Angleterre tantôt avec Margaret Thatcher, t'sais. Ces gens-là, faut avoir des connaissances sur ces gens-là. T'sais. Une base, du moins. Margaret Thatcher, c'était quoi ses politiques? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle a tant été marquante, cette femme-là, t'sais. La dame de fer, celle qui écoutait personne puis qui faisait ce qu'il y avait de mieux pour son peuple en sachant très bien qu'elle allait possiblement pas être réélue parce qu'elle prenait des décisions pour son peuple. Elle a réussi à sortir l'Angleterre du trouble plus souvent qu'autrement, là.
Mais ça, c'était un tomboy en jupe. C'était pas une vraie femme, ça.
Elle macho.
C'est ça, parce que moi, ce qui me fait capoter, c'est que je vois des mouvements, autant que c'est ça, on n'a plus les mêmes féministes qu'on a eues à une certaine époque. Il y avait un moment aussi que ce mouvement-là était légitime, mais quand tu dis la première ministre britannique, puis qui, à la limite, il a cautionne, à la limite, il y a critique quasiment, là, parce que, ah non, elle, c'est pas une vraie femme. Ah ouais, ben, écoute, donc, c'est le fun. Non, t'as absolument raison. Puis la culture générale, mais en même temps, c'est qu'il faut, pour donner, tu sais, c'est assez spécial, montrant qu'on peut parler de la politique à longueur de journée, puis tout le monde est des gros tripeux de ça, mais, genre, tu sais, on croise du monsieur, madame, tout le monde à longueur de journée, puis il faut se le dire, live, présentement, autant que oui, il y a d'autres places dans le monde qui c'est plus fun, mais la politique québécoise en ce moment, c'est plate à mourir. Même la
Joey, je pense qu'on est en train de
C'est
te
pas
perdre.
grave.
Je pense qu'on est en train de te perdre, Joey. On va en
Oh.
profiter pour faire une courte pause. On va se reconnecter dans les prochaines secondes, puis on va faire notre deuxième segment. Je rappelle que ce soir, on est avec Joey Aubé, qui est de Génération Ambition. On apprend à connaître ce qu'est Génération Ambition, mais on veut en savoir un peu plus sur Joey Aubé, qui fait de plus en plus parler de lui. On fait une courte pause et on vient.
Marceau, le soir. Le soir.
102. Ce soir, on a le plaisir de parler avec Joey Aubé de Génération Ambition. Puis juste avant la pause, avant que ça coupe un peu notre fameux signal Internet, on parlait à quel point la politique québécoise, c'était pas tout le temps super intéressant. Je sais pas si tu suis le drame actuel à l'Hôtel de Ville de Québec, mais on se croirait dans les feux de l'amour. Ça finit plus.
Ouais, ben c'est ça. Autant que l'acte en tant que tel est tout sauf positif, mais c'est sûr que pour les analyseurs de politique comme nous autres, bien évidemment, c'est de la viande autour de l'os à commenter puis à analyser. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il va falloir rendre la politique pas mal plus attrayante qu'elle est présente, même un peu la décloisonner. Parce que là, autant que le monde en politique, c'est peut-être quoi, là, 10 000 personnes au Québec, là, vraiment, qui travaillent à longueur de journée là-dedans, puis j'exclus les journalistes, là. Mais c'est ça, c'est qu'il y a un côté, j'ai l'impression qu'il y a le monde politique, puis il y a le reste de la planète un peu, là. Tu sais, c'est un peu spécial, mais j'ai l'impression que je regarde un gars, pour ceux qui suivent la politique américaine puis qui ont suivi les primaires des Républicains, un gars comme Vivek Ramaswamy, là. T'sais, le gars qui a été un des candidats pour qui a dû quitter malheureusement parce qu'il n'a pas été élu, mais le gars est d'origine indienne, s'occupe de sa fortune, t'sais, il est indépendant de fortune, lui, il focusse toute sa campagne sur les réseaux sociaux, il fait des mimes, peu importe les gens qui l'invitent, de gauche, de droite, il va les voir, il a un franc-parler de manière extraordinaire, puis il est capable de rejoindre avec tous les styles de réseaux sociaux possibles, puis une nouvelle manière de faire de la politique vraiment différente, tu sais. Puis on n'est plus dans les habits gris, puis dans les vieilles stratégies de « OK, on va aller voir Anne-Marie Dussault pour essayer de parler au monde ». On n'est plus là, là. La raison pourquoi les médias se meurent, là, non, c'est pas à cause de Meta, là. C'est à cause que vous êtes rendu poche, là. Je suis désolé, là.
Ouais.
Puis vous êtes plus écoutables, le monde sont allés ailleurs, puis avec la montée des podcasts montre que les gens veulent de l'authenticité. Puis ça veut pas dire, puis c'est plus la langue de bois, malheureusement. Fait que si vous voulez parler aux gens, autant que d'un côté, si vous parlez comme un être humain, vous risquez de vous mettre les médias mainstream à dos, mais vous risquez à parler au monde pour de vrai. Puis autant aussi longtemps qu'ils vont dire que vous êtes un si ou un polémiste ou un whatever, ben dans l'autre ligne, je vais plus truster les gens que je rencontre sur le terrain que les grands journalistes de Radio-Canada.
Ouais. Tu parlais d'authenticité, tu sais, on l'a eu d'en face avec Jack Layton. Tu sais, moi, j'étais pas NPD pantoute. Puis Jack Layton, quand il s'adressait au public, quand il était invité, je sais pas, dans un show de télé ou sur un bulletin quelconque, j'écoutais ce qu'il avait à dire. Le gars était sympathique. Je ne sentais pas une grosse déconnexion entre lui et moi, même s'il y avait plusieurs décennies de distance entre moi et lui. Puis, il y a plusieurs personnes qui se sont faites prendre, là, qui ont voté pour le NPD. Bon, tu sais, on disait, c'est important que les gens soient très honnêtes et ils nous avaient caché sa maladie.
Je suis plein coupable, j'ai voté pour le NPD durant la vague orange, moi, tout.
Oui, parce qu'il était très près des gens, tu sais. Mais moi, j'aurais voté pour le NPD, mais je comprenais pourquoi il y a des gens qui aimaient bien ce bonhomme-là, parce qu'il était sympathique, il était terre à terre, puis il était capable de parler avec tout le monde. Un peu comme la personne que tu m'as parlé tout à l'heure, que j'ai totalement ignoré là, dans les derniers mois, les dernières années. C'est la première fois que j'entends son nom même. Mais Jack Layton...
Ah ouais, tu connais pas Vivek? My God,
ben non!
Il faudra que je te montre, envoie des vidéos de ça.
On va être obligé de se rejaser. Mais, tu sais, Jack Layton est un exemple. Il y a une grosse déconnexion entre les politiciens. Puis, tu sais, on peut parler même des médias. On dirait que les politiciens ne vivent pas la même chose que nous. C'est comme s'ils étaient dans un endroit restreint juste pour eux. Puis à partir du moment où il s'adressait à la population, tu te dis, mais à qui il parle? Qui a demandé telle affaire? Qui a demandé ça?
Puis souvent, puis c'est un peu plate, pour autant je ne veux pas envoyer la faute sur un seul et même endroit, mais la classe médiatique a beaucoup influencé là-dessus. Parce que tu sais, autant qu'on avait des politiciens à une certaine époque, pas si longtemps que ça, du moins peut-être un peu avant que ma naissance, qu'on avait des politiciens qui avaient justement qui étaient quand même dévergondés, qui avaient une connexion avec la population, mais avec le... politiquement correct, tu sais, il ne faut pas dire trop d'affaires, puis là, avec la ligne de parti mélangée à ça, tu sais, avec nos chers, certains diraient plantes vertes à l'Assemblée nationale. Moi, je trouverais ça, tu sais, qu'on soit d'accord ou pas avec ces gens-là, qu'ils puissent au minimum s'exprimer. Moi, je trouve pas ça normal que, à part le Conseil des ministres, puis mettons, je sais pas, à part s'il y a une controverse pour tel député, que 90% des élus, ou du moins 80% d'entre eux, je les connaisse pas, ou que je les entends jamais parler d'eux autres dans les médias, nulle part, ever. T'sais, je comprends, tu es dans un parti politique, il faut qu'il y ait une ligne qui se crée, une ligne directive pour les communications, puis tout ça, je comprends tout ça. Mais comment voulez-vous qu'on vous trouve pas que vous êtes rendu inutile, puis vous êtes juste des bodies dans le temps de voter pour des projets de loi, puis que le reste du temps, je comprends, vous êtes sur votre comté, vous êtes dans les soupers spaghettis, puis tout, mais c'était ça vraiment votre vision de la politique quand vous êtes engagé, d'être vraiment un pion? Puis ils ont un suiveux, puis that's it.
Catherine,
moi, si vous voulez.
Catherine Dorion, quand elle était sortie de la politique, elle l'a mentionné, là, si elle avait voulu ne pas travailler pendant toutes les années où elle était là, ça aurait été facile pour elle et personne n'aurait pu lui en tenir rigueur. Là.
Claire Samson, même chose aussi. Ouais. Fait que de plus en plus... Puis je pense que c'est ça, c'est qu'il y a comme une sorte de glorification qui se fait autour de la classe de politiciens, comme que ce serait comme nos seigneurs. Puis, ah, monsieur, madame, comment allez-vous? Ouais. Oh, ils travaillent tellement fort. C'est spécial, hein? On parle de... On dit qu'un député, ça travaille quoi? Il disait ça à un moment donné. C'est quoi? C'est 70 heures semaine qu'il disait, ah, ça travaille tellement fort. C'est drôle, on a un premier ministre du Québec, lui, en plus d'être député, qui est préem. Fait qu'on s'entend que lui, c'est encore plus un nombre d'heures. Hey, il a quand même le temps de lire des romans, toi, chose. Hey, c'est fabuleux quand même, des romans, pas des affaires de 15 pages, des trucs ouais. de 150-200 pages. Il a le temps de lire ça, lui, ouais. À toute sa job incroyable de PM. Give me a break. Là, à un moment donné, c'est que...
Mais la déconnexion, tu l'expliques comment? T'sais, Philippe Couillard qui se pointe devant moi en studio, puis c'était pas moi qui animais à ce moment-là. J'étais en co-animation, puis qui dit, ben moi, il y a énormément de gens qui me parlent du tramway. Puis là, je me suis dit, mais qui vous parle du tramway? Personne parle du tramway à Québec, à part les politiciens. Donc, pourquoi vous écoutez pas les gens qui sont dans la rue? Ces gens-là savent ce qu'ils ont besoin pour les prochaines années. Peut-être que vous pouvez arriver avec des idées, peut-être, puis s'arrimer à ça. Mais lui disait qu'il entendait toujours parler du tramway puis qu'il n'entendait jamais parler du troisième lien. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion. Ça veut dire que là, quand on arrive à l'Assemblée nationale, il y a une bulle au-dessus de l'Assemblée nationale, puis il y a pas d'information du citoyen qui rentre là, là. C'est des gens qui parlent entre eux, tout simplement.
Oui, et aussi, je dirais, jusqu'à... majoritairement, puis ça, c'est plus idéologiquement parlant, parce que, tu sais, la gauche a toujours eu plus de facilité à s'organiser. T'sais, est-ce qu'on parle vraiment de faire des pétitions ou créer des OBNL ou... vraiment être sur le terrain, puis let's go, on part quasiment une manifestation. Ça a toujours été vraiment la spécialité de la gauche. La droite, c'est plus, vu qu'on est plus individualiste en général dans notre idéologie de pensée, on a moins tendance à se regrouper puis à vraiment à créer des organisations pour nous représenter. Fait que c'est pour ça que, soyez pas surpris que de plus en plus, depuis les dernières années, il y a vraiment une guerre à l'auto qui se crée, puis étrangement, tout le monde n'arrête pas de dire dans les médias que c'est normal, si on va enlever les... on va taxer plus les chars pour ci, on va couper des stationnements là, de ci. Pourquoi? Parce que c'est la quasi-majorité des organismes qui disent parler pour les gens sont des organismes majoritairement de gauche, majoritairement plus progressistes, environnementalistes et quoi que ce soit. Fait que, tu sais, vous verrez jamais, mettons des accès de transport viables ou des piétons Québec ou des vélos Québec. Vous verrez jamais l'équivalent aussi nombreux, mettons, un genre d'automobile Québec ou un genre de club de camionnage ou whatever. Parce que justement, on est de droite aussi, on est plus du genre à vouloir travailler. Puis, monsieur, madame, tout le monde, ils s'impliquent pas, puis ils militent pas, ils font leurs affaires de leur côté. Fait que c'est vraiment plus les crinqués souvent qui se rendent aux politiciens. Et les politiciens ne sont pas méchants, mais eux autres, ils se disent tant qu'à aller voir, aller consulter, mettons, 150-200 personnes, voilà un organisme de ce coin-là qui me dit parler spécialisé dans le domaine, puis eux autres me disent qu'ils sont sur le terrain puis qu'ils parlent aux gens. Fait qu'on va essayer de les faire confiance là-dessus, mais le problème, c'est que c'est pas toujours vrai. C'est plus idéologique que vraiment la vérité sur le terrain.
Ouais. Chez les libéraux, actuellement, où il y a un député que j'aime bien, il s'appelle Monsef de Ragy. Je sais pas si tu as déjà jasé avec Monsef de Ragy, mais c'est quelqu'un que j'aime bien, avec qui on peut discuter, même si on ne s'entend pas nécessairement sur tout. Puis, il fait quelque chose que j'aime bien, c'est que quand il débarque à Québec, il se promène en taxi ou en Uber, il jase avec les chauffeurs de taxi, puis il jase avec les chauffeurs d'Uber, puis il dit « Hey, toi, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer ta vie? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas présentement en politique? Qu'est-ce que tu pourrais demander à des politiciens? » Puis, je veux dire, juste le fait qu'il fasse ça mérite notre respect, là. Parce que je peux parler de Philippe Couillard. Tu sais, lui, il y a personne qui pouvait y avoir accès à Philippe Couillard, mis à part les gens qui étaient près de lui ou encore des lobbyistes qui étaient inscrits. Mais Monsef de Ragy fait un exercice que tout politicien devrait faire, c'est-à-dire de sortir dans la rue puis de jaser avec la serveuse, puis de jaser avec le monde ordinaire. Mais ça se fait plus, ça, Joey. Ces gens-là sont complètement déconnectés. Puis je me souviens d'un Tanguay, Marc Tanguay, qui est le chef par intérim du Parti libéral du Québec. Il vient en entrevue avec moi, il est devant moi. Puis moi, j'aime bien ça, les pincer dans un coin, mais gentiment. J'essaie qu'il revienne une fois de temps en temps. Puis bon, on parle du tramway, on parle du troisième lien. Puis lui, ben, il était contre le troisième lien. Fait que je dis, ben, c'est quoi les mesures d'urgence à Québec, advenant le cas où il y a une fermeture du pont Pierre-Laporte? C'est quoi le plan B? Ben, Marc Tanguay, qui s'opposait systématiquement au troisième lien à chaque fois qu'on lui en parlait, ne savait pas c'était quoi le plan B, advenant le cas qu'il y a une fermeture pour ce qui est du pont Pierre-Laporte. Et quand je lui ai dit que c'était un détour de 200 km, c'est-à-dire Trois-Rivières, par le pont La Violette, pour ceux qui sont en camion, parce que les camions ne peuvent pas passer sur le pont de Québec, il y avait les yeux d'un orignal sur l'autoroute qui était sur le point de se faire ramasser par une vanne. Mais pourtant, le gars, à tous les jours, disait « Non, pas de troisième lien, non, pas de troisième lien, oui, le tramway », mais n'était même pas au courant d'une chose super banale, c'est-à-dire un plan d'urgence pour la ville de Québec. Puis la bonne nouvelle, je sais pas si c'en est une pour toi, mais il y a Denis Coderre puis Sam Ahmad qui se sont exprimés dans les derniers jours sur les ondes de Boulevard. Sam Ahmad le fait, là.
Denis Coderre, j'ai écouté l'entrevue avec Denis, c'est intéressant.
Denis Coderre l'a fait à une autre antenne, mais les deux sont pour un troisième lien. Puis Sam Ahmad a pris la peine de le dire que c'était pour des raisons de sécurité pour les gens de la Rive-Sud puis de la Rive-Nord.
Oui, ben personnellement, autant que leur vraie parole et leur volonté, je vais les laisser à eux-mêmes. Mais disons, quand tu es un nouveau politicien, tu essaies de te faire aimer depuis plusieurs années dans la région de Québec, si tu arrives et tu dis « je suis pour un troisième lien ». Andrew Scheer l'a fait, Erin O'Toole l'a fait aussi au fédéral. Je vais attendre, je dis pas que c'est des menteurs, je n'irai pas jusque-là, mais je vais plus voir la couleur du cash avant de confirmer qu'il existe bien là-dessus. Fait, regarde, good for him, si c'est vrai, là, tu sais. Mais tu as absolument raison, tu sais. Il y avait une expression que Bernard Landry disait, si vous allez en politique pour vous faire aimer, achetez-vous un chien. C'est carrément ça. C'est qu'on est tellement... surtout en plus aujourd'hui, je dirais, on est tellement rendu à analyser toujours la forme, mais jamais le fond. Tu sais, là, le troisième lien, c'est comme, c'est l'asphalte, c'est l'automobile, puis c'est l'individualisme, puis de ci, puis de ça. Oui, mais regarde la géographie, chose. Absolument, comme tu l'as dit, Yann, on a le pont, la porte tombe, le Québec, au moins la moitié du Québec est littéralement coupée en deux.
Ouais.
Allô, la terre. Puis quand, regarde, je veux pas faire trop de politique partisane, mais tu sais, quand Éric Duhaime proposait sa version à l'Est, que je suis d'accord, parce que moi, je suis un gars de Montmagny, fait que la Rive-Sud, let's go. Mais avec l'île d'Orléans, puis là, on se dit, non, la MRC de l'île d'Orléans, ils veulent rien savoir de ça. Ouais, mais la fait que vous comprenez pas, c'est que votre pont, en ce moment, il est en décrépitude. Là, ils sont en train de le voir le réparer, mais vous n'avez rien qu'un. Là aussi, mettons que, je sais pas, pour X raison, whatever, ouais. Attentat terroriste, changement climatique, je sais dessus, vous avez plus de pont. Vous êtes rendu vraiment isolé sur votre île, faites quoi?
Oui, bien, il y a déjà un plan B, puis je l'ai étudié, ce fameux plan B.
Il y en a un, mais tu sais, s'il y aurait déjà un autre client qui allait vers la Rive-Sud, bon, au moins, il y aurait encore une connexion.
Tu veux que je te donne, au niveau de la sécurité. Tu veux que je te donne le plan B pour l'île d'Orléans? Tu y croiras pas. C'est la traverse Québec-Lévis. C'est ça, ben, le plan B.
Tu te rappelles-tu? Yann, on a eu un microcosme de ça. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, à la fin de l'hiver 2019, j'étais au cégep de Lévis à l'époque, ça, je m'en rappelle. Il y avait eu une grosse pluie verglaçante à l'époque. Puis c'était à la fin de l'hiver, puis ça commençait à fondre, mais il y avait des gros blocs de glace qui s'étaient ramassés sur le pont Pierre-Laporte. Puis il avait dû littéralement fermer le pont pendant quasiment une journée et demie parce que c'était trop dangereux. À grosseur des blocs de glace, ça aurait pu tomber sur les chars, tuer du monde. Fait que là, c'était c'était comme des poules pas de tête. Là, les traversiers sont rendus gratuits. Puis là, on savait pas trop qu'est-ce qu'il allait faire là-dessus. C'est pour ça qu'on prend, j'ai l'impression, puis c'est pour ça que je dis souvent dans mes analyses politiques que le dernier homme d'État qu'on a eu au Québec, c'est Lucien Bouchard. Puis quand je dis homme d'État, c'est pas que... Regarde, Lucien Bouchard, autant que je l'aime beaucoup comme politicien, mais je n'étais pas d'accord avec tout non plus, mais c'est le dernier politicien qu'on a eu qui pensait à la prochaine génération et pas à la prochaine élection. Le reste, OK, Landry, t'es pas si pire, là, mais Charest, Barrois, Couillard, Legault, c'est rien que des hommes et des femmes politiques et non pas des personnes d'État.
Mais on fait quoi pour les ramener? On fait quoi pour les ramener, ces gens-là? Pour les ramener au peuple plutôt qu'avec la fameuse machine politique? Qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on serait capable de ramener les deux pieds sur terre? Moi, là, l'accusante défaite dans Jean Talon, j'ai vu quelque chose d'exceptionnel. Là. J'ai vu une Geneviève Guilbeault qui s'est aperçue que son poste était en jeu dans la région de Québec puis qui a commencé à penser comme le contribuable le moyen. Ouais. Tramway, ça coûte cher. Hein? Faudrait regarder un peu ce qui se passe. Ah, ben, le troisième lien, faudrait regarder ça aussi. Effectivement, faudrait regarder ça. Ça leur prend-tu des défaites sévères pour leur dire si vous faites pas ce qu'on veut, on va vous enlever votre job?
Ben, le problème, c'est que je trouve que c'est too little, too late, comme on dit. Parce que là, le go du jour au lendemain, que justement, on ressuscite le troisième lien, même il y avait un sondage plus quelques semaines après, que même ceux qui sont pour la CAQ disaient, je pense qu'il n'y avait même pas 10% des gens qui croient encore que le troisième lien va se réaliser, peu importe quelle idéologie politique ils pensent. Fait que je pense que pour ceux qui sont là présentement, je pense que c'est trop tard, là, les ramener sur le plancher des vaches, on est peut-être certains, mais ça va plus prendre une nouvelle génération de politiciens et de politiciennes pour régler ce problème-là, qui font de la politique différemment et que justement, ils ne s'accrochent pas nécessairement au vieux modèle. Là, présentement, justement, avec l'affaire des médias, qu'on veut quasiment les sauver à vita veternam, comme c'est pas possible, alors qu'on voit clairement qu'ils sont plus productifs, ils n'intéressent plus personne, personne ne les écoute, mais vu que c'est le modèle politique qu'on a toujours connu, on va les subventionner à l'os, on va les sauver. Mais le problème, c'est qu'il y a un principe, quand on dit le circle of life, c'est un peu ça, c'est qu'à un moment donné, ça en prend qui est un renouveau, qui ça brûle, puis un peu comme une forêt, là, tu sais, que ça se repousse tranquillement vers des nouvelles pousses, des nouvelles idées de cible de ça. Garder la même stratégie tout le temps, ça ne fonctionnera pas. Au contraire, vous allez délier l'inévitable, puis en bout de ligne, ça va vous sauter dans la face, un peu comme on l'a vu avec le système de santé durant la pandémie, à force de faire des réformes qui ne marchaient pas au lieu de décentraliser, puis de mettre la contribution du privé là-dedans. On a surréglementé, surcréé les CIUS, la réforme Barrette. Ça nous a explosé dans la face. Puis après tout ça, on a décidé de ne pas faire de réforme. De conclusion, de vouloir revenir sur le système. OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On devrait peut-être faire ça. Je sais que dans la réforme mammouth de Dubé, il y a quelques petites affaires qui sont pas pires, les affaires de fonctionnaires au sein des hôpitaux, mais c'est comme une goutte goutte à droite pour quasiment un litre à gauche, un peu encore. Là. Fait que. Écoute, pour répondre à la question principale, parce que je tourne un peu autour du pot, je pense que vraiment, si on veut avoir les gens intéressés à la politique et aussi que les politiciens en général restent connectés avec leur milieu, je pense qu'il va falloir beaucoup plus les consulter, beaucoup plus que les 10 organismes et quoi que ce soit. Et comme tu l'as dit tantôt dans le segment précédent, les fameux, j'étais d'accord avec ça, moi, que nos bulletins de vote au Québec, que ça soit un peu inspiré des États-Unis, que quand on vote pour telle affaire, on vote aussi justement pour un nouveau parc dans votre terrain, dans votre municipalité, justement un référendum justement sur le troisième lien, sur le tramway, hein?
Ouais.
Après, au lieu de demander tout le temps à nos élus d'en faire un puis qu'ils n'en veulent pas, ben je pense que ce serait automatique. Puis ça, regarde, je te donne un exemple. Une affaire les plus drôles. En 2015, quand Trudeau voulait se faire élire, puis il y avait juste le pot quasiment comme proposition électorale.
Ça a marché.
Ben, si on aurait eu ce style de bulletin-là avec, mettons, le choix d'élection fédérale plus le pot, ben ça se peut que le pot passe, mais peut-être pas Trudeau. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que, mettons, Harper serait fait réélire troisième mandat. Mais là, tu sais qu'Harper, c'est un conservateur. Il est zéro ouverture du pot, whatsoever. Mais lui, il a une clé de... Lui, il n'a pas le choix. Là. La population, il a fait une clé de bras. Il est coincé avec ça. Ils ont voté pour. Fait que, je trouve tellement que c'est une belle manière pour les gens de bypasser les lobbies puis de justement faire des clés de bras dans des gens qui nous représentent pour justement que même si idéologiquement, ils ne sont pas nécessairement d'accord avec les idées qu'on propose, ben, tu n'as pas le choix. Tu as un mandat, mon dame. Deal with it. Fait que je pense que c'est en voulant. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont. Je pense que c'est un peu final là-dessus. C'est que beaucoup de gens. La majorité de la population ne se sentent pas écoutés du tout. Ça, peu importe s'ils sont de gauche, de droite, de centre, whatever. Fait que je pense que c'est vraiment à commencer à les réécouter pour de vrai, puis en leur donnant les moyens de se faire écouter, puis pas juste avec des sondages, mais pas juste avec des sondages, vraiment au niveau du terrain que ça va se faire, mais c'est un travail de longue haleine, bien évidemment.
Joey Aubé, tu regardes Paul Saint-Pierre Plamondon qui vient d'arriver en politique, puis qui est déjà pressenti pour être le prochain premier ministre du Québec, puis tu regardes Éric Duhaime. Comment t'expliques que Paul Saint-Pierre Plamondon, tout le monde s'est jeté dessus comme la misère sur le pauvre monde, puis pour ce qui est d'Éric Duhaime, ça stagne entre 10 et 15 %. T'expliques ça comment? Si t'avais des conseils à donner à Duhaime, ce serait quoi?
Pour répondre à la première question, c'est très facile, c'est québécois. T'sais, autant que oui, la CAQ a déclingonné, puis on a vu qu'il y a vraiment une déconnexion dans la dernière campagne électorale. Le réseau québécois a vraiment beaucoup décroché, a sorti de la CAQ et vraiment voulu appuyer le PQ. Et à l'époque, bien évidemment, c'est un peu comme la logique. Là, quand tu es au fond du baril, rendu au fond, tu peux juste faire ça remonter. Fait que bien évidemment, tu remontes. Ils ont joué leur carte, je dois quand même le dire, avec l'histoire du serment au roi, puis faire stimuler le caribou pas mal beaucoup pour ces gens-là. Puis ça a bien fonctionné. Mais
comment quelqu'un qui braille en face des portes de l'Assemblée nationale peut s'attirer autant de monde de son côté? Parce que moi, j'ai rencontré PSPP quelques semaines après justement le crying show en face des portes. Puis en lui jasant, j'ai vu qu'il y avait de belles valeurs fondamentales qui vendraient pas sa mère pour 50$. J'ai dit, je crois qu'un jour, vous allez être premier ministre du Québec. Puis il y a des gens sur Internet qui ont dit, hey, t'es complètement débile de dire ça à Paul Saint-Pierre Plamondon. Voyons, ça n'a pas de bon sens, il vient d'arriver en politique et tout ça. Mais il y avait quelque chose qui me titillait en lui, puis je comprenais pourquoi il y a des gens qui avaient tendance à lui faire confiance. Il semble avoir des belles valeurs fondamentales bien ancrées, puis en même temps, le Parti québécois puis la CAQ se ressemblent beaucoup. Puis j'ai dit, je pense fermement qu'un jour, vous allez être premier ministre du Québec, et quelques mois plus tard, ben, on se ramasse que le Parti québécois est en avance. Cela dit, aux prochaines élections, advienne que pourra, puis qui vivra, verra. Ben... Mais je comprends pourquoi Paul Saint-Pierre Plamondon plaît autant à certaines personnes, mais je comprends pas pourquoi Éric Duhaime réussit pas à monter d'un sondage alors que ses idées sont adéquates pour le payeur de taxes moyen.
J'ai l'impression que c'est multifactoriel. Tu as absolument raison, moi tout, j'ai l'impression que, regarde, PSPP, est-ce que le gars, je le considère comme quelqu'un d'intègre, qui a des valeurs fondamentales, puis tout ce qu'il dit, il ne dit pas pour faire plaisir, il dit parce qu'il pense, absolument. Autant qu'il y a bien des politiques qui fait que je suis aucunement en accord, mais regarde, depuis longtemps, le PQ se recherchait, puis arrêtait pas de dire qu'on avait tant des leaders qui n'osaient pas ramener l'indépendance. Lui, il s'est dit, on va le ramener. Qu'on soit d'accord ou pas avec ça, c'est pas le point, mais au moins, lui, il l'a fait. Fait qu'il y a beaucoup à tirer là-dedans. Rajouter à ça le vote de contestation de la CAQ qui est en baisse, puis vu que l'électorat boomer, comme j'ai dit, de la CAQ, retourne à ses anciennes amours, ce qu'on appelle dans Yann et Frank l'appel de la miata. On retourne au vénile avec nos anciennes amours qui sont le PQ là-dessus. Mais les prochaines années, les prochaines élections vont nous montrer que cette montée-là, cette majorité-là qui arriverait, est-ce que c'est vraiment une majorité dure ou un géant au pied d'argile? Parce que là, présentement, autant que le PSPP, il y a là quasiment du grand sauveur, mais on ne l'a pas challengé tant que ça sur ses idées. T'sais, c'est beaucoup sur. On s'assied sur nos lauriers, puis oui, il a l'air super bien, puis on lui pose plein de questions sur un Québec indépendant, puis de ci, de ça. Mais je me dis, OK, les vraies questions fondamentales de comment gérer ici, puis la santé dans la vie de tous les jours et quoi que ce soit, je pense vraiment dans les détails, comme on dit, le diable est dans les détails, je pense que c'est là qu'il va plus être plus de difficultés. On l'a vu un peu en version microcosme, tu sais, le genre quand Denis Coderre avait été la semaine dernière à la SNAP, puis PSPP, l'avait accueilli, puis lui, Denis Coderre met le bras sur l'épaule, super content, puis tu sentais un peu que PSPP est un peu déstabilisé, il savait pas trop quoi dire, tu sais. Le gars, ça reste un intello, là, c'est un peu comme moi, là, tu sais, autant qu'on n'est pas tous des grands extrovertis, mais se faire brasser pour de vrai, je pense pas qu'il a encore vécu ça. Fait qu'il reste à voir si ça va casser ou il va passer au travers. Mais je pense que les gens s'y retrouvent beaucoup, justement, dans une genre. C'est un peu un vent de fraîcheur, PSPP, là-dessus. Tu sais, dans le sens des idées. Puis que, contrairement à Legault, on est moins dans l'arrogance là-dedans aussi. Fait quelqu'un plus calme, plus posé. Fait que je pense que c'est beaucoup ce que les gens recherchaient. Pour Éric Duhaime, écoute, je pense que c'est sûr et certain, déjà partant. C'est pas à dire, puis je trouve ça dommage que c'est ça, mais que le mot conservateur au Québec, t'as déjà deux prises sur trois au baseball déjà faites, déjà en partant. T'as pas l'amour des médias, encore moins leur appréciation. Autant tu te fais inviter quelques fois ici et là, puis ou dans des radios plus locales ici à Québec, puis ça te ferait toujours plaisir, bien évidemment. Mais on a comme un genre d'héritage historique de voir les conservateurs égale conservateurs fédéraux ou égale républicains américains, donc vous êtes anti-avortement, vous êtes quasiment des suppôts de Satan, Éric Duhaime égale Trump, alors que c'est des stupidités, mais ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand on compare Marine Le Pen, Pierre Poilievre, Éric Duhaime puis Donald Trump, on dit que c'est tout du monde pareil, mais vous ne connaissez pas la politique pour zéro cent. Ouais.
Ou c'est des gens qui ont...
économiquement, c'est une socialiste, ouais. C'est une gauchiste à côté, c'est juste au niveau, ouais. C'est juste au niveau de... Voyons, au niveau justement du social puis de l'identité qui est très à droite, mais le reste, une gauchiste, là. Ouais. Mais c'est ça, je pense que c'est une question d'informer les gens. Puis comme je l'ai dit, je pense que les Québécois sont beaucoup plus conservateurs qu'ils pensent. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai appelé aussi, ben, on a appelé le mouvement Génération Ambition et non pas, mettons, le mouvement conservateur des jeunes conservateurs du Québec. C'est que je voulais qu'on soit plus... facile d'approche, si je peux dire. Pas que j'aime pas, que je renie pas mon conservatisme, que quelqu'un me le demande dans la rue, je serais aucunement gêné de parler de mes idées. Mais je pense que, en étant plus, parce que je l'ai vécu durant la dernière campagne en 2022, j'étais en bosse, imagine-toi donc. Puis je parlais du Parti conservateur, puis je disais, ah non, moi, le conservatisme, mais genre, mais je vous ai rien dit encore, ah non, moi, conservatisme, j'aime pas ça, va des rétro-satana, ah non, je suis pas capable. Fait que je pense que, un de nos objectifs aussi, que j'ai pas dit que Génération Ambition, c'est de vouloir justement instiguer à être présent dans les cégeps. Parce que, comme tu l'as dit, que ce soit Limoilou, même on a des idées, on a des messages, là, mettons, de cégep de Jonquière ou ailleurs au Québec, QS a quasiment le monopole, ouais, sur le terrain avec les jeunes. Les autres partis comme la CAQ ou les libéraux, disons que c'est plus des vieux partis, n'osent pas trop aller là. Fait que c'est un terrain très vierge pour nous autres à vouloir vraiment être sur place puis challenger un peu Québec solidaire sur leur propre terrain. Fait que je pense que c'est une bonne chose à faire.
Donc, tu t'es fait tirer de l'eau bénite en Beauce.
Bof, c'est pas si pire. C'était une fille, en plus, une fille quasiment de mon âge en plus, mais regarde, j'ai un peu ses opinions puis tout. Mais pour dire que ça. La terminologie conservatrice est tellement. Tu sais, il y a peu de gens qui vont vraiment à la définition des mots. Puisque moi, ça m'a pris longtemps, autant que je suis un gros geek de politique, mais savoir que. Un conservateur canadien n'est pas la même chose qu'un conservateur américain, n'est pas la même chose qu'un conservateur français ou un conservateur, ouais, britannique. Tu sais, pour être bien franc, le PCQ, des conservateurs québécois, ça serait genre des genres de Joe Manchin aux États-Unis, des démocrates plus centriste, tu sais, ça serait... Tu sais, vas-tu, c'est que chaque idéologie, chaque pays a comme sa propre échelle politique aussi, puis autant que, oui, il peut y avoir des généralisations puis des concepts fondamentaux comme la liberté ou l'égalité qu'on peut tous se retrouver là-dedans, mais c'est vraiment en fouillant dans les micro-politiques que là, tu peux dire, OK, si on est d'accord, si on ne l'est pas, Puis c'est ça qui est le fun aussi de la politique, c'est qu'il y a tellement de variantes que c'est toujours fun à écouter.
Puis juste pour terminer, Joe, avec la différence entre Paul Saint-Pierre Plamondon puis Éric Duhaime, est-ce que ce serait pas à l'avantage du Parti conservateur du Québec de faire un merge avec le Parti libéral?
L'idée, ben écoute, je n'ai déjà entendu parler. Si c'est sous Denis Coderre, je suis bien curieux de voir, je pense pas qu'il est ouvert à ça.
Ça pourrait pas fonctionner.
Ben surtout que si le référendum mormon va être une réalité, puis disons qu'il va se mettre en Captain Canada, puis autant qu'Éric, il essaie plus de, on, là, au PCQ avec Éric, on essaie de plus d'être une position comme autonomiste entre les deux, je te dirais. Là. Mais je te dis pas que c'est pas impossible, tu sais, parce qu'on a quand même beaucoup, on est deuxième, moi je pense qu'on a plus de 25% de taux de taux de votation pour ce qui est des taux d'appréciation chez les non-francophones, en fait les anglophones de Montréal aussi. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que le PLQ se fasse une cure minceur puis une cure jeunesse, parce que la joke que je dis tout le temps, c'est que le Parti libéral du Québec, c'est Québec solidaire, mais qui va s'habiller chez Moores, au lieu du Village des valeurs. Ben. C'est qu'on est vraiment, on a eu beaucoup une tangente très, très, très à gauche depuis la défaite du PLQ en 2018. Donc, ceux qui sont restés, les Marois Risky, les Dominique Andelade de ce monde, ils n'ont pas recentralisé ça beaucoup. Et je pense que même l'aile jeunesse du Parti libéral s'est beaucoup gauchisée beaucoup aussi. Fait que son côté, vraiment, le fameux Parti libéral de l'économie, justement à la Samamad un peu, ou à l'époque de Jean Charest, est plus tant présent. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense que je veux d'abord continuer avec le PCQ puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis je suis 100% d'accord d'Éric de vouloir rester au provincial. Tout le monde qui veut le pousser au fédéral, moi, personnellement, je ne le comprends pas. T'sais, si vous voulez que le conservatisme en général économique au Québec pogne. Oui, ça prend un parti fédéral fort au pouvoir, mais ça prend aussi une présence qu'on a aussi au Québec. Je pense que c'est un peu ça qui était manquant, parce que autant que partout dans les autres provinces canadiennes, il y avait leur homologue équivalent, un peu comme le PLQ, mettons, le Parti conservateur saskatchewanais, albertain, quoi que ce soit, avec quand même une mini-version du fédéral ici au Québec, on n'avait pas ça. Fait que je pense qu'en ayant une présence claire et nette, en parlant de nos idées, puis je pense que plus ça va aller, puis garde, c'est une supposition que je fais, mais là, présentement, j'ai checké Québec 125 dans les derniers jours, on a beaucoup de luttes à trois dans la région de Québec, je veux dire Appalaches en général, la Beauce, c'est pas mal plus de notre bord normalement, mais je me dis, OK, si, parce que comme j'ai dit, ma théorie politique, c'est ça, puis je peux finir là-dessus, si on sait la CAQ à moins d'un miracle, mais je pense pas que ça va arriver, ça va aller toujours en descendant. Je vois pas en aucun cas, ils ont le poids du pouvoir sur eux autres, puis ils ont l'étiquette quasiment de menteur collée quasiment sur le front. Je pense pas que ça va remonter plus que. Ils remonteront pas leur colline. Le PQ est en montée. OK, fine. Ils ont leur genre de plus de vote de protestation que nécessairement des souverainistes, référendistes, de quoi que ce soit. Fait que. Là, les prochaines élections, là, c'est vrai que PSPP va se faire challenger pour de vrai. Là. Ça ne sera plus le Sunny Ways, comme dirait Justin Trudeau. Là, il va vraiment se faire shaker. S'il toffe la ride, ça ira pas bien. Mais si, finalement, comme j'ai dit, la majorité est plus un genre de géant d'argile, puis quand. Parce qu'il y a beaucoup. Il y a peu de gens qui disent vouloir voter PQ, qui ne savent pas que le PQ propose, mettons, l'éco-fiscalité, puis quasiment éliminer l'école privée, puis tout ça. Fait que, quand les vrais politiques, comme on dit, le cash, va, le chat va sortir du. Le lapin va sortir du chapeau, là, peut-être, ouais, finalement, le PQ. Hein,
c'est pas ce qu'on pensait.
On n'est plus à l'époque de Jacques Parizeau, là. Finalement, on sait que c'est très à gauche. Là.
Finalement, fait, le gendre qu'on a toujours rêvé, c'est pas le gars qu'on pensait pour notre fille.
C'est ça. Fait que peut-être finalement, puis les gens qui vont se dire ça, ils retourneront pas à CAQ. T'sais. Je dis non, je les ai quittés pour eux autres. Fait que quelle autre alternative? Le Parti libéral? Ça va dépendre de si Denis Coderre est là ou pas. QS, oublie ça. Ben PCQ, ah, peut-être. T'sais. Ça va dépendre comment on joue nos cartes, mais il y a toujours une possibilité de le faire. Puis vu dans des luttes très serrées, comme justement comme mon comté natal de Côte-du-Sud, aussi que Montmagny et tout, c'était 28% CAQ, 27% PQ, puis 25% PCQ. Fait, ça ne prend pas grand-chose pour comme se faufiler entre les lignes. Puis fait que ça ne se jouera pas avec un 10% de margin pour faire élire des députés aux prochaines élections si ça continue comme ça. Ouais. Fait que, ça reste à voir. L'avenir reste incertain, mais je pense qu'il y a une possibilité de faire beaucoup plus de gains puis enfin avoir des députés conservateurs à l'Assemblée nationale du Québec.
Joey Aubé de Génération Ambition, il reste une dernière question que j'avais pour toi. Tant au municipal, au provincial qu'au fédéral, puis même aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est comme le retour des hommes et des femmes extrêmement forts. Actuellement, à la Ville de Québec, on on a quelqu'un qui est très faible. Régis Labeaume était extrêmement fort quand il y avait quelque chose qui touchait la ville de Québec puis qui lui tenait à cœur. Il y a personne qui touchait à Québec. Sam Hamad était un peu comme ça du temps où il était député libéral à Québec. Là, on a eu un Bruno Marchand qui n'a pas un gros impact à la ville de Québec, qui ne fait pas peur à personne. Donc, les politiciens provinciaux peuvent piler sur la tête de Québec sans aucun problème. Moi, j'ai l'impression qu'à Québec, on va avoir le retour d'un maire ou d'une mairesse avec une grosse tête forte. Moi, je te donne un cue comme ça. J'ai gagé sur Sam Hamad. Je sais que Sam Hamad a des aspirations politiques municipales qui est en train d'essayer de faire le tour de deux partis en général pour devenir à la tête de ces partis-là. Je lui ai jasé, d'ailleurs, dans les derniers jours. Il n'était pas content que je lui pose toutes ces questions parce qu'il veut se tenir peinard encore pour un an. Fait que ce serait Sam Hamad à Québec. À Montréal, là, ce qu'on comprend, c'est qu'on a une mairesse qui est très faible aussi. Mairesse Plante, c'est épouvantable. Au Canada, on a Justin Trudeau qui s'en va aussi, qui serait peut-être remplacé par Pierre Poilievre, qui est quelqu'un de très fort, qui y va direct. C'est-tu le retour des hommes et des femmes fortes? Ça, en Alberta, oui. Je veux dire, elle est là, puis elle est bien ressentie, cette ministre en Alberta.
Oui, ben Daniel Smith, absolument, ouais. Premier ministre. Ben oui, ben, c'est un peu comme la fameuse citation, tu sais... hard time creates strong men create good times create weak men create hard times. Puis
c'est une roue qui tourne.
C'est ça, c'est une roue qui tourne. Enfin, je pense qu'on est vraiment absolument raison. Tu sais, c'est la troisième loi de la relativité qui dit qu'une réaction va créer une réaction égale et opposée à son chose. Fait que tu sais, quand tu poses trop d'un côté, à un moment donné, le balancier revient de l'autre bord. Enfin, je pense que oui, on a eu une période que c'était vraiment plus, c'est ça. Puis il faut se le dire, regarde, les gens plus écolos ou plus à gauche, nos maires QS, que ce soit le maire de Laval ou à Longueuil ou à Montréal ou à Québec, ils ont profité du fait qu'on était assis sur nos lauriers, puis on n'a pas trop checké ça, fait qu'ils ont infiltré les sphères municipales, puis ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient. Mais je pense que justement, le monde se sont réveillés tranquillement pas vite, puis ils se disent « Ouais, finalement, il va falloir recentrer ça beaucoup. » Absolument, je vois ça beaucoup dans l'avenir, vraiment des nouvelles têtes fortes, mais c'est justement...
Trump qui reviendrait aux États-Unis, tu sais, c'en est une autre tête forte. Peu importe ce qu'on dise de lui, c'est une tête forte, puis les Américains semblent avoir fait déjà leur choix. Quand on regarde les sondages, Biden est très faible. Fait qu'on a Biden faible qui pourrait prendre le bord, on a Trudeau faible qui va prendre le bord, on a Bruno Marchand à Québec, qui va probablement être le seul maire de Québec à faire juste un mandat de 4 ans. On dirait que les gens ont besoin de renouveau.
Oui, mais pour être franc, je vais peut-être faire une mini-parenthèse sur Sam Hamad. Autant que le gars, je le trouve bien sympathique, puis je reconnais absolument ses compétences et son expérience politique. Mais moi, ce que je trouve un peu plate, c'est que, tu sais, je ne veux pas nommer de personne, mais si on a des partis comme Respect Citoyen, ou Priorité Québec, qui travaillent depuis des années à l'opposition pour faire la job, justement, de oser sortir dans les médias pour critiquer à chaque jour les dérives du maire Marchand à Québec et de faire telle politique, puis être vraiment sur le terrain, parler au monde. Autant que ça m'amène de mon respect pour bien d'autres choses, mais arriver un peu comme un genre de Elvis un an avant les élections, puis tassez-vous la gang, I'm the king, puis je vais prendre les rênes à partir de là, puis let's go, je suis rendu maire de Québec. Bon, si les gens décident, je respecte la démocratie, c'est bien correct. C'est juste que ce côté-là de vouloir juste récolter les lauriers que tant de gens ont travaillé pour, puis mis le terrain pour, je trouve que j'aurais beaucoup plus de respect pour Sam Hamad si ça ferait, mettons, genre plus qu'un an qu'il déjà il est dans les médias, déjà il se fait parler de lui. Pas juste genre je viens vous voir pour voir puis toucher la température de l'eau. T'sais, puis autant que, comme je dis, ça prend pas un nobody non plus à la Ville de Québec. Ça prend vraiment quelqu'un que les gens connaissent, ça prend quelqu'un justement qui a de l'expérience, qui connaît la gestion. Mais les éternels, justement, retour de nos idoles un peu, puis regarde, je te parle comme étant un jeune, bien évidemment, j'aimerais ça qu'on ait plus une version plus renouvelée de politiciens dans toutes les plateformes puis toutes les sphères de notre société. Pourtant, je veux pas un petit clin de 20 ans qui vient juste de sortir de l'université pour être maire de telle ville ou premier ministre ou whatever, mais juste l'éternel recyclage de nos politiciens que oui, ils ont de l'expérience puis tout, mais la chance au coureur est souvent moins là. Il y a comme, on dirait qu'il y a une genre de non-règle, de non-dit en politique que... Faut absolument, à la limite, que tu aies des cheveux gris pour avoir un poste important ou quoi que ce soit. T'sais. Puis je dis pas que ça en prend uniquement des jeunes ou faudrait faire de l'âgisme puis jamais de personne plus âgée non plus. Mais c'est ça. C'est un peu l'opinion que j'avais là-dessus. Mais absolument, pour les hommes forts, ça peut les femmes fortes aussi, faut pas l'oublier. Ça va en prendre de plus en plus. Puis je pense qu'on est vraiment dans une bonne tangente de tous les paliers. Mais c'est un peu spécial, c'est que si PSPP se ramasse premier ministre, autant que je dirais pas que c'est un homme faible, mais je ne... Je te dirais que je le vois un peu comme entre les deux. En tout cas, ça reste à voir. On va voir comment ça, si jamais il est premier ministre, on va voir comment sa gouvernance va se faire. Mais c'est un gars, tu sais, plus calme, plus posé. Ouais. On ne parle pas de hey, là, on n'est pas dans les grands discours. T'sais. Il est vraiment plus dans l'explication. Puis je vois pas ça comme une forme de faiblesse, une forme de pédagogie. T'sais. C'est pas comme Marchand que c'est la faute de tout le monde sauf moi. Je pense pas qu'il est là-dedans encore. Mais si justement on a un Poilievre avec justement Trump aux États-Unis, puis on a PSPP au provincial, il va comme être un peu un seul homme moyen slash, je veux pas dire faible, mais plus dosé, qui serait comme seul au monde dans son côté. Si en plus, on a des maires et des mairesses plus avec des têtes fortes au municipal. Ça va être curieux à voir.
Joey Aubé, Génération Ambition, c'est de quel âge à quel âge, Génération Ambition?
On a décidé ça récemment. c'est en fait de 12 à 30, excuse-moi, 14 à 35 ans.
De 14 ans à 35?
Oui, ben en fait, on a différents paliers. C'est qu'à partir, mettons, je te dirais, de 14, ben, je ne vais pas me tromper ici, parce qu'on a adopté ça récemment, puis je ne connais pas tous les trucs. Ma collègue pro porte-parole, Héloïse Coulombe, va pouvoir en parler plus. Mais au début, je te dirais, de 14 à 18, c'est plus, mettons, s'impliquer, juste pour donner du temps. Tu sais, mettons, donner du bras, on dit du jus de bras en bon québécois, puis apprendre un peu le truc. Quand tu as, je pense, c'était 16 ou 18, tu as vraiment le membership, tu peux voter pour les propositions qu'on fait. Et la raison pour qu'on ait mis 35 ans, c'est qu'on a quand même beaucoup de gens un peu comme moi qui ont l'air jeunes, mais qui sont même un petit peu plus vieux, mais qui veulent quand même nous aider à donner un petit coup de main, puis ça nous prend un peu d'expérience à travers un peu tout ça. Fait qu'on a décidé ça un peu. Fait que si ça vous intéresse, vous êtes curieux d'entendre parler du mouvement ou de nous rejoindre, Génération Ambition sur Facebook, également TikTok, serveur Discord aussi, Génération Ambition. Sinon, j'ai ma page publique à moi, Joey Aubé Chroniqueur, sur Twitter et sur Facebook. Si vous voulez m'envoyer un message, si vous êtes intéressé, je vais vous mettre en lien, bien évidemment. On a un groupe Messenger pour se parler de nos trucs aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de... Comme je vous dis, on n'a pas encore de membership payant, ça vous coûte quelque chose. C'est vraiment juste, on est en mode recrutement pour ceux que ça intéresse, puis on n'est pas très discriminatoire. Fait que tant que vous avez du fun, puis la politique vous intéresse, puis vous trouvez ce que j'ai dit depuis une heure, ça a du sens, ben, lâchez-nous un coup de fil.
Ça a été une belle rencontre, puis en espérant te parler dans les prochaines semaines, Joey.
Un plaisir, anytime.
Merci beaucoup. Nous autres, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1. Et on se rejase demain, 11h, pour ce qui est de Marceau le midi. Merci, bye-bye. Marceau le soir.